Le journal Loïc Barrière. Elisabeth Borne nommée à Matignon, elle devient la deuxième femme à diriger un gouvernement 30 ans après Edith Cresson. Au Liban, les élections législatives marquées par une forte abstention, 41% des électeurs seulement ont participé au scrutin. Un nouveau président en Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud, déjà élu une première fois en 2012. Les évêques de Terre Sainte accusent Israël d'avoir manqué de respect à l'église suite à l'intervention de la police israélienne lors des funérailles de la journaliste Shirin Abu Akleh. Chez les Palestiniens, l'émotion reste très forte après sa mort. Entretien avec l'universitaire et écrivain de Gaza, Ziad Medouk. L'un des invités de Pluriel est Lotfi Ben Khalifa, candidat d'hiver gauche aux législatives à Vénissieux, extrait dans ce journal. Enfin, nous écouterons Maï Binbin, écrivain basé à Marrakech. Il se félicite de voir revivre la célèbre place Jemaa el Fna après 2 ans de crise sanitaire. En France, Elisabeth Borne succède à Jean Castex à Matignon. Elle est la deuxième femme à occuper le poste de Premier ministre depuis Edith Cresson, qui avait occupé ce poste pendant 10 mois au début des années 90. La nouvelle Première ministre, longtemps proche du Parti socialiste, a été directrice de cabinet de Ségolène Royal, puis ministre des Transports après l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017. Puis Elisabeth Borne est devenue ministre de la Transition écologique avant d'être en charge du travail dans le gouvernement de Jean Castex. Le Liban, dans l'attente des résultats définitifs des élections législatives organisées ce dimanche, le ministère de l'Intérieur a annoncé des résultats concernant les députés élus dans plusieurs circonscriptions. Les législatives sont terminées et le Liban se trouve face à un nouveau tournant, a tweeté l'ex-premier ministre et chef du courant du futur, Saad Hariri. Il a ajouté que sa décision de se retirer de la scène politique était juste. Selon lui, elle a secoué les fondations et révélé les failles politiques. Cela ne veut pas dire que nous avons abandonné nos responsabilités, a encore affirmé Saad Hariri. L'abstention a été forte. Le ministère libanais de l'Intérieur a annoncé une participation de 41% seulement. En Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud, élu président de la République, chef de l'État une première fois entre 2012 et 2017, il s'est imposé face au président sortant, Mohamed Abdoulaye Mohamed, une élection qui intervient alors que la Somalie est confrontée à la sécheresse et au risque de famine. Parmi les défis du président nouvellement élu, le rétablissement de la sécurité. Ces derniers mois, les Chebabs ont mené plusieurs attaques meurtrière en Somalie. Les évêques de Terre Sainte accusent Israël d'avoir manqué de respect à l'Église. Suite à l'intervention de la police israélienne lors des funérailles vendredi de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, à la sortie de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est, la police israélienne a violemment dispersé la foule. Les images du cercueil qui a failli tomber ont choqué à travers le monde. L'émotion ne retombe pas après la mort de la journaliste, notamment dans la bande de Gaza, comme le souligne l'universitaire écrivain et citoyen de Gaza, Ziad Medouk.
On peut dire qu'il y avait 3 réactions après la mort et l'assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, maître des derniers à Jenin, en Cisjordanie occupée. D'abord, il y avait un sentiment d'injustice, senti, ressenti par la population civile dans tous les territoires palestiniens, parce qu'ils ont visé une femme, ils ont visé une journaliste qui était en train de faire son métier, couvrir les événements graves, les incursions de l'armée de l'occupation à Jenin. Deuxième sentiment, il y avait un sentiment de colère, parce que les Palestiniens n'attendaient pas donc l'assassinat d'une journaliste très active, très engagée, pour montrer la réalité telle qu'elle est dans les territoires palestiniens. Mais il y avait un sentiment émotionnel, un sentiment d'émotion, parce qu'il y a une réaction immédiate. Il y avait les gens, ils ont été satisfaits de l'ensemble de la réaction internationale face à cette meurtre. Il y avait des manifestations, soit dans le territoire palestinien, soit partout dans le monde, pour condamner et pour dénoncer ce nouveau crime israélien. Donc on peut dire qu'il y avait des réactions immédiates, même si la situation à Gaza est différente parce qu'il n'y a pas de point d'affrontement avec les Israéliens, mais les Palestiniens, par exemple aujourd'hui, les journalistes, ils ont fait un hommage solennel à cette journaliste. Il y avait les élèves, les étudiants, toute la population civile. Il y avait une maison de deuil dans le bureau de Jazeera à Gaza, donc on peut dire qu'il y avait un sentiment émotionnel, mais il y a un sentiment de colère, un sentiment d'injustice et un sentiment de satisfaction par rapport à la réaction internationale face à cette meurtre et surtout que le monde entier a commencé à bouger pour dénoncer l'occupation et dénoncer qu'est-ce qui s'est passé avec cette journaliste palestinienne très engagée pour la cause palestinienne.
Et ce qui s'est passé lors de ces funérailles, hein, ces images des violences à la sortie du cercueil de Shirin Abu Akleh ont choqué la communauté internationale et cela a bien entendu choqué la population gazaoui.
Bien sûr, on était seulement pendant, comme je veux dire, le sentiment émotionnel et le sentiment de choc et d'injustice et d'impuissance, il a dominé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé lors de la violence, lors de ce funérail à Jérusalem vendredi? Il a choqué pas seulement le monde entier, même la population de Gaza. Et je pense que la population de Gaza, à travers les manifestations, les rassemblements et tous les rassemblements qui sont faits à Gaza depuis vendredi, hier et ce dimanche, montrent un peu que les Palestiniens de Gaza sont toujours attachés à la Palestine et que les Palestiniens de Gaza suivent, malgré le blocus, malgré leur situation, malgré leur souffrance au quotidien, mais ils suivent avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Cisjordanie. Je pense qu'il y avait un sentiment de solidarité et de sympathie par rapport à ce qui s'est passé avec Shirin Abu Akleh, parce que les Palestiniens de Gaza qui souffrent plus de l'injustice et de blocus, ils ont été très solidaires avec Shirin Abu Akleh. Il y avait des réactions, il y avait des chansons, il y avait des sittings, il y avait des rassemblements à la mémoire de Shirin Abu Akleh. Et ces rassemblements, il y a des artistes qui ont dessiné son portrait dans les murs de Gaza et surtout sur la plage de Gaza. Je pense qu'il y a les Palestiniens de Gaza, ils ont montré une solidarité donc totale avec Shirin Abu Akleh et surtout ils ont montré une solidarité avec leurs compatriotes en Cisjordanie et ils ont confirmé que Gaza fait partie de la Palestine.
Shirin Abu Akleh qui était bien entendu un visage familier des Gazaouis.
Bien sûr, donc c'est vrai, même si elle n'a pas pu venir plusieurs fois à Gaza à cause du blocus, mais elle couvrait souvent les événements à Gaza. Et donc elle, il était plusieurs fois, mais pas beaucoup, mais à travers les reportages qu'il a montré pour les incursions de l'armée israélienne et les attaques de colons contre les civils palestiniens, il a évoqué souvent le mot Gaza et le blocus de Gaza et la situation à Gaza. Donc on peut dire que les Gazaouis qui se sentent impuissants et qui sentent l'injustice, ils ont été très solidaires, ils ont apprécié donc les positions et le rôle et l'engagement de Shirin Abu Akleh pour la Palestine en général et pour la bande de Gaza en particulier et à travers les rassemblements, les manifestations et les réactions vives et émotionnelles des Palestiniens de Gaza, de toutes les tendances politiques et sociales, ils ont montré donc qu'ils sont attachés au principe de la justice et de la paix.
L'universitaire et écrivain de Gaza, Ziad Medouk, il répondait à François-Xavier de Calonne. Les élections législatives en France, le socialiste Lotfi Ben Khalifa sera candidat d'hiver gauche dans la 14e circonscription du Rhône. Il évoque les enjeux du scrutin pour les villes qu'il souhaite représenter, notamment Vénissieux et Saint-Priest. Lotfi Ben Khalifa est l'invité de Pluriel, on l'écoute.
Une circonscription deux grandes communes, plus de la moitié de Saint-Priest et Vénissieux. Donc une sociologie qui a changé entre Saint-Priest et Vénissieux depuis 2014, hein, comme quoi la politique peut changer les choses en termes d'habitat et même en termes de peuplement. À Vénissieux, on a une population qui est plutôt pauvre, hein. On a un taux de pauvreté qui est le double de celui de la métropole, hein, 30%, une trentaine de pourcents, une ville qui est détenue par le Parti communiste depuis déjà 85 ans. où le parti communiste est totalement hégémonique, hein, où il a le pouvoir sur tout. J'ai été adjoint au maire entre 2008 et 2014. J'ai essayé de changer les choses à l'intérieur, puisqu'il y avait un accord avec le PS et le PC à l'époque. Malheureusement, je n'ai pas réussi à inverser la gouvernance. Hein. Moi, je voulais une gouvernance de partage et une gouvernance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui prenne en compte la difficulté des habitants et surtout qui ne tourne pas le dos aux difficultés, que ce soit celui de la drogue ou de l'insécurité. On met pas la poussière sur le tapis, hein. Non, on la balaye. Et va rendre cette ville non seulement vivable et attractive. On se rend compte que plus ça va, plus cette ville dépérit, que ce soit en termes de propreté, de salubrité, de logement. Vénissieux aujourd'hui, c'est triste à voir. C'est triste à voir. Contrairement à Saint-Priest, où les choses évoluent plutôt positivement depuis le changement de municipalité, j'ai aucune difficulté à dire ça, puisque c'était quand même des socialistes qui étaient au pouvoir. Et là, pour le coup, tout le monde comprend bien que je ne suis pas partisan. Je me suis engagé au PS parce que voilà, ces valeurs me correspondaient à l'époque. Aujourd'hui, avec un parti socialiste dirigé par une direction comme celle d'Olivier Faure, ça correspond plus tellement à ce que j'aspire, en tout cas à mes attentes au parti socialiste. Là encore, on essaie de faire changer les choses en interne, mais je pense que c'est peine perdue, malheureusement, et il va falloir soit recréer un nouveau mouvement social et démocrate, soit il va falloir se tourner vers des mouvements plutôt citoyens, toujours pour préserver ce qu'on a aujourd'hui, l'améliorer et tendre vers un meilleur avenir pour notre jeunesse. On voit bien que les partis politiques sont à bout de souffle, qui ne se régénèrent pas en fait, puisqu'on a toujours les mêmes qui tiennent les appareils, qui se reproduisent entre eux. Les gens ne veulent plus ça. Et ceux qui s'impliquent aujourd'hui comme moi, on aspire à autre chose. On veut autre chose pour le quotidien des Français.
Lotfi Ben Khalifa, candidat d'Hiver Gauche dans la 14e circonscription du Rhône, invité de Pluriel sur Radio Orient. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient dimanche était Maï Binbin pour Mon frère fantôme, publié aux éditions Stock, un roman qui évoque Marrakech et la célèbre place Jemaa el Fna, chère à son cœur.
Pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, je passais par là tous les jours. Donc le matin, j'allais à l'école, je traversais la place. Mais deux fois, je revenais le soir vers 6h et en hiver, il faisait noir. Et vraiment, j'avais peur de traverser la place. C'est-à-dire, il y a la foule, mais il y a une solitude au milieu de cette foule. Et bon, il y a des charmeurs de serpents, il y a de la fumée. Il y a pour un enfant de 7-8 ans qui devait traverser cette place des miracles tous les jours, eh ben c'était effrayant. Et donc, j'ai essayé de redonner ce côté, la raconter avec mes yeux d'enfant.
Et puis c'est une place qui est en perpétuel mouvement. Finalement, c'est un lieu vide, la place Jemaa el Fna. Elle n'existe que parce qu'il y a des gens qui vont et viennent tout au long de la journée et la place n'est pas la même le matin, l'après-midi ou le soir.
Et je peux vous assurer que pendant ces 2 années de Covid, c'était une place morte. Il n'y avait pas les touristes. Les Marocains restaient chez eux. C'était la désolation totale. Là, je me repromène à Jemaa el Fna et je suis content de réécouter les gnawa, les chants des gnawa. Je suis heureux de voir les serpents, voir l'écartement sienne, voir le charmeur de pigeons. Il y a des gars qui font des dialogues avec les pigeons. C'est vraiment la cour des miracles et c'est une cour qui change à toute heure de la journée. Le matin, c'est une ambiance, l'après-midi, une autre. À l'heure de la prière, c'est le calme plat et puis ça reprend le soir avec les odeurs des vendeurs de saucisses, les ceux qui vendent la soupe de fèves qu'on appelle Bessara, que j'adore, ou alors les escargots qu'on mange avec les avec les épingles de nourrice. Voilà, il y a la vie qui reprend le soir et c'est assez magique.
Alors votre roman, il est un peu comme vous devant ce micro, il est vivant, on est véritablement plongé dans la vie de Marrakech et il y a des moments vraiment savoureux. Puis il y a plusieurs passages que je pourrais citer. J'aimerais juste parler d'une scène. Le héros est au cinéma, on projette un film indien, mais la séance est brutalement interrompue parce que le projecteur est tombé en panne. Je crois même que l'un des personnages est tellement agacé qu'il veut casser les sièges. J'imagine que c'est une scène que vous avez vécue,
Maïbine Bin. Absolument. Ça, c'était monnaie courante. La bobine qui brûle. À l'époque, ça s'arrêtait net. Et alors, le patron du cinéma venait sur la scène et racontait la fin du film. Autrement, on lui cassait les... On lui cassait les sièges qui étaient en bois à l'époque du cinéma Eden. Il porte ce joli nom qui se trouve en plein place Jamal Fna. Et moi, quand j'arrivais à avoir des sous, on allait voir les deux films, le Hindi avec Shami Kapoor et ses naïades et Bruce Lee, parce que Bruce Lee c'était quelque chose. Mais le cinéma, c'était pas comme le cinéma ici où on n'entend pas le vol d'une mouche. Le cinéma là-bas, quand quelqu'un s'approche de Bruce Lee par derrière, mais c'est tout le cinéma qui le prévient. Il crie, ça, c'était vivant. C'est des moments vraiment.
C'est un moment de fête, de réjouissance collective.
De réjouissance. On sortait de là, on était heureux. Et les films hindous, c'était en hindou. On comprenait pas. Donc chacun se faisait son interprétation. Il y avait 1000 interprétations et on n'était pas d'accord. Bon, à la fin, il y avait toujours le héros qui partait avec sa promise, contrairement à la famille qui veut l'en empêcher, et ils vont sur une île déserte ou n'importe quoi. Mais on ne comprenait pas bien l'histoire. On fabriquait nos propres histoires. C'est comme lire un livre.
C'est comme écrire un livre. Finalement, vous êtes en train de faire ce que vous faisiez dans le cinéma en écrivant un livre.
Absolument.
Vous racontez la fin.
Je raconte. Oui, absolument. Absolument. Mais moi tous mes livres se sont passés, c'est-à-dire j'ai campé tous mes livres dans cette rue, sur cette place. Mais vraiment, je me demande même si on n'écrit pas le même livre indéfiniment. Et j'ai toujours écrit sur cette place, sur le Maroc. Le seul livre qui se passe à Paris, c'est quand j'ai quitté Paris pour aller m'installer à Marrakech. Évidemment, j'avais la nostalgie de Paris, donc j'ai installé mes héros dans Paris pour raconter dans, je sais plus quel livre, Terre d'ombre brûlée. J'ai installé mon personnage ici à Paris.
Maï Bin Bin, auteur de Mon frère fantôme, publié aux éditions Stock. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.